Dans le cadre des cours Horizons de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 3, Les sciences du Hadith, de la collection Les sciences islamiques.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous commençons aujourd'hui le second cours de cette série d'introduction aux sciences islamiques. Après avoir justement eu un aperçu global, nous avons, lors du dernier cours, approché la question des sciences du Coran, Ulum al-Qur'an. Nous approchons maintenant une science complexe, difficile, pointue, très précise, qui est celle de la science des hadiths, la science du hadith, Ulum al-Hadith, qui a énormément de chapitres et de classifications et de typologies et qui demande un grand effort de clarté, de précision. Il est évident que pour un cours comme celui-ci, il ne nous est pas possible d'aborder l'ensemble des chapitres qui parfois dépassent les 70, 80 même chapitres, tant il est vrai qu'il faut pour chacune des dénominations, chacune des spécialisations, des catégorisations faire un travail d'explication. Eh bien, nous n'aurons pas le temps de faire cela. Nous nous contenterons pour ces premiers pas dans ces sciences de nous en tenir, après une introduction générale, à trois grandes parties. D'abord, de mettre en évidence quelques-uns des termes qu'il est nécessaire de connaître quand on aborde cette science. Ensuite, comprendre les types les plus importants et les degrés d'authenticité de ces hadiths. Ensuite, nous verrons assez rapidement quelques domaines comme la valeur exécutoire, les chaînes de transmission et les typologies concernant effectivement les transmetteurs autant que les textes. Donc un travail d'introduction large qui nous permettra quand même de nous rendre compte en conclusion que l'utilisation justement de ces hadiths, si l'on dit le pluriel arabe, eh bien n'est pas simple, qu'elle demande beaucoup de méticulosité et qu'il ne suffit pas de lire une tradition, un hadith dans un ouvrage pour pouvoir d'un coup d'un seul avoir mis en évidence un jugement ou une prescription islamique. Commençons donc immédiatement par cette introduction générale. Ce qu'il faut savoir, et simplement pour que l'on sache quelle est la place justement de cette sunna, qui est l'ensemble de ces traditions, de ces ahadiths rapportés sur le prophète, eh bien, il faut simplement savoir dans un premier temps que l'on comprend par hadith tout est l'ensemble de ce que le prophète a dit, fait ou approuvé. Al-qawl, al-amal, wa-t-taqrir, c'est-à-dire véritablement la dimension qui se rapporte à des traditions rapportées par des compagnons sur l'ensemble de ces trois dimensions de la présence dans la communauté musulmane du prophète de l'islam, Mustafa, c'est-à-dire celui qui a été élu et qui était chargé d'être justement, qui a été chargé par Dieu d'être celui qui allait être le réceptacle, et puis finalement le transmetteur, donc l'envoyé, qui devait recevoir la révélation, puis la transmettre. Le prophète, alayhi salam, dans un premier temps, faisait bien la part des choses entre, d'une part, ce qu'il recevait comme révélation, qu'il admettait que qu'on l'écrivit immédiatement, et d'un autre côté, ce qui était ses propres paroles, tant il était vrai pendant les premiers temps qu'il voulait marquer une décision claire et en plus de cela, une dimension de priorité, de clarté. Les mots du Coran étaient révélés en l'état, en langue arabe, immédiatement, et il ne faisait que les répéter. Par contre, on va voir pour les hadiths, ce n'est pas les mots sont ceux du prophète, alayhi salam, même si l'inspiration et le sens vient pour ce qui concerne le prophète, alayhi salam, dans son rôle de prophète, d'une sorte d'inspiration, d'une sorte de d'éléments qui effectivement sont dans son rôle et dans sa fonction de prophète et d'envoyé. Donc on peut dire que tout ce qui vient du prophète alayhissalam de ce point de vue là est marqué du sceau de la vérité, mais les mots qu'il emploie sont les mots qu'il choisit lui-même, et ça marque déjà une distinction sur laquelle il est important d'insister. Ce qui confirme dans les sources elles-mêmes la réalité de s'en tenir à cette dimension du hadith, c'est effectivement fondamentalement les propos du prophète alayhi salam, mais le Coran également. Alors si l'on commence par ce que l'on trouve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullah inna Allah shadidul 'iqab. Ce avec quoi est venu l'envoyé, prenez-le, et ce dont qu'il vous a interdit de faire ou de dire en l'occurrence, et ben cessez et craignez Dieu, portez à Dieu la grande conscience de sa crainte, car certes Dieu est un châtiment qui est un châtiment dur. Eh bien, cette dimension, elle est évidente. L'envoyé, Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam, ici, reçoit dans le Coran lui-même ce rôle d'être justement porteur de commandement, d'orientation et de direction. Et c'est bien le rôle que jouera, en plus du Coran, la Sunna. De la même façon, le prophète lui-même, alayhi wassalam, a mis en évidence cette dimension au moment de quitter sa communauté, en leur rappelant qu'il avait laissé parmi la communauté deux choses qui, s'il s'y tenait, ne les ferait en sorte qu'ils ne s'égarent pas, et en l'occurrence, bien entendu, le Coran wa sunnati, c'est-à-dire le Coran et ma tradition. Donc on a ici une ligne très très claire du prophète alayhi wassalam, et qu'il a confirmé d'ailleurs avec Mu'adh ibn Jabal dans un hadith quand il l'envoie au Yémen, et lui dit selon quoi jugeras-tu? Et bien il dit le Coran, et puis si tu ne trouves pas dans le Coran, il lui dit la Sunna, et si tu ne trouves pas, je ferai un effort c'est-à-dire je ferai un effort personnel et je ne mesurerai pas mon effort en cela. Donc on a ici une dimension très très claire qu'on trouve dans le Coran, mais à plusieurs reprises, tout simplement dans ce que nous avons ici, wa ati'ullah wa rasoul, obéissez à Dieu et à son envoyé et à l'envoyant, donc très clairement la première des références à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici le Coran, wa rasoul, clairement ici le prophète alayhi wassalam. Et certains commentateurs, quand ils lisent le verset du Coran qui dit wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, c'est-à-dire l'envoyé doit leur enseigner quoi, el kitab, donc le Coran, wal hikma, ils comprennent ici la hikma comme le mot la sagesse, donc, qui fait référence dans leur compréhension à la deuxième source, à savoir la Sunna. Ce qui donne ce statut au prophète alayhi salam, et qu'on confirme encore dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, il y a certes dans l'envoyé de Dieu pour vous le meilleur des modèles. Donc on a immédiatement ici confirmé par le Coran, donc annoncé clairement par le Coran, puis confirmé clairement également par la Sunna elle-même, ce rôle particulier de l'envoyé qui dit des choses, fait des choses, et puis décide des choses qui vont devenir, l'ensemble de ces éléments, des prescriptions d'un second ordre, certes par rapport au Coran, mais avec une particularité, c'est que dans certains domaines, par exemple, elles sont effectivement tout à fait nécessaires pour nous, parce que par rapport au Coran, elles ont en tout cas trois fonctions. La première des fonctions qu'on a par rapport au Coran, c'est que certains hadiths viennent par rapport au Coran confirmer ce qu'on trouve dans le Coran. C'est-à-dire, ce sont des hadiths qui viennent confirmer clairement par rapport à ce qui déjà est révélé un élément, et qui sont ici également particulièrement clarifiant, parce que elles rendent claire la prescription au sens où une prescription dans le Coran appliquée par le prophète Aïssatussalam dans un certain sens la confirme autant qu'elle l'explique, bien entendu. Donc il y a un premier sorte de tradition, de hadith, qui sont des hadith qui confirment. Deuxième sorte ici de rapport que la sunna peut avoir avec le Coran, c'est ils peuvent expliciter ce que le Coran a dit, et donc de ce point de vue-là, le prophète alayhi salam, par son attitude, en ce qu'il dit, en ce qu'il fait, en ce qu'il décide, explicite une prescription qui peut être, par exemple, d'ordre général. Alors, ce qu'on a ici dans l'explicitation, c'est effectivement trois choses dont on parle effectivement. C'est par exemple de préciser ce qui est dans un premier temps général. C'est-à-dire que on a une information qui peut être générale et le prophète alayhi wasallam en donne une explication. Exemple, on sait en lisant le Coran que la prière est obligatoire. Mais on ne trouve pas dans le Coran comment l'on fait la prière. Et c'est de ce point de vue-là que le prophète Aïssatussalam dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et donc ici, c'est la sunna qui va expliciter, préciser le général, donc l'information générale de la prière est précisée par la sunna. Et donc on voit bien la place ici importante que la sunna va avoir par rapport au Coran de précision, et de ce point de vue-là, dans la précision, la nécessité pour nous de nous y référer si nous voulons pouvoir prier. Nous avons également ici un autre type de précision, c'est de circonscrire ce qui apparaît comme absolu. Exemple, quand on a dans le Coran une information, ici comme le voleur et la voleuse, vous leur couperez les mains, alors c'est une information absolue. Ici, il est évident que son application demande beaucoup de conditionnalité, et en fait, qu'est-ce qui va préciser la conditionnalité, préciser le mode d'application d'une information aussi générale et aussi absolue que celle-ci, de la circonscrire à des conditionnalités tellement fortes qu'elle rend une compréhension absolue extrêmement précise en la circonstance, tellement précise qu'il faut bien entendu se référer à cette seconde source qu'est la sunna pour bien comprendre la dimension de ces absolus. Donc elle circonscrit les domaines d'une affirmation absolue, et on va voir dans la vie du prophète Aïssatussalam comment ensuite l'ont compris au travers de lui les compagnons une application de la référence et de la prescription absolue dans un cadre circonscrit. Donc la sunna ici vient effectivement circonscrire, limiter, mais préciser au sens d'une autre type de précision de ce que nous avons mis d'abord en évidence, la dimension de el-mutlaq, c'est-à-dire l'absolu. Et puis, ensuite, une autre chose qui peut aussi apparaître comme extrêmement important, c'est la spécification de quelque chose qui apparaît de ce point de vue-là également général. Alors, là ici, par rapport à tout ce qui concerne les éléments de l'héritage, les éléments qui sont des prescriptions générales, et bien ici on va avoir et on va trouver, dans le sens où la sunna précise, une spécification de quelque chose qui est présenté de façon générale, qui est encore un autre type que ce qui est la limite de la prescription absolue. Alors, on a plusieurs exemples dans le Coran de ceci. On ne va pas s'y arrêter, simplement, on a, par rapport à un certain nombre d'orientations, des précisions qui nous sont apportées et auxquelles on se tient. Et puis, il y a un désaccord sur le troisième genre de rôle que peut jouer la sunna par rapport au Coran et sur lequel effectivement on a des divergences parmi les opinions, c'est est-ce que oui ou non la sunna apporte, énonce quelque chose de nouveau qui n'était pas dans le Coran et dans la sunna. Alors, pour certains, ils ont mis ceci en évidence, et ils ont plutôt mis en évidence le fait que ça n'était pas possible. La seule chose que la sunna peut faire, c'est préciser, compléter au sens de ce que nous avons mis en évidence tout à l'heure, mais d'autres ont dit oui, il se trouve, et c'est vrai que en tout cas dans ce qui concerne même par rapport au mariage, on trouve des cas où la sunna ou le prophète alayhi salatu wasalam a ajouté quelque chose. Mais pour les premiers, ceux de la première catégorie, ils disent il n'a ajouté que dans le sens logique de ce qui déjà était énoncé dans le Coran. Nous n'allons pas entrer dans ces domaines de discussion parce qu'ils sont très très complexes. C'est aussi des interprétations assez précises d'un certain nombre de hadiths. Tenons-nous-en, en tout cas, à ces trois dimensions-là. Un, le Coran, donc dans ce sens-là, peut confirmer et par la confirmation expliquer comment on applique une prescription. Il peut de ce point de vue-là la préciser dans trois sens de la précision. La précision qui est celle qui peut amener à la compréhension de, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la précision par rapport à quelque chose qui peut être prescrit de façon générale sans les éléments des modalités de son application, comme nous avons vu pour la prière, quelque chose qui vient limiter et circonscrire une dimension absolue, ou quelque chose qui vient spécifier une dimension générale dans son application et non pas dans les modalités comme le premier genre. Et la troisième des catégories, ensuite alors, c'est celle qui met en évidence quelque chose qui serait énoncé de façon nouvelle. Donc voilà le rôle de la sunna par rapport au Coran, donc dans la précision, le complément, etc. À partir de cela, rappelons simplement qu'historiquement, ce qui est apparu, c'est des problèmes par rapport à la question du hadith. Les sciences du hadith en tant que telles vont effectivement être spécifiées et devenir une science extrêmement élaborée à partir du 4e siècle. Mais déjà auparavant, on a le souci et l'on se rend compte, chez les grands savants qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes circonstanciés, politiques, et bien entendu dû à l'histoire. On peut mettre en évidence, comme nous l'avions fait pour l'histoire des sciences religieuses ou des sciences islamiques d'un point de vue général, les quatre éléments qui vont être très très importants. La première, c'est effectivement avec l'expansion des terres musulmanes, eh bien la dispersion des fuqaha, la dispersion des savants, la dispersion de ceux qui étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, et ce qui rend de ce point de vue-là les choses extrêmement difficiles. Et dans un premier temps, les compagnons ne demandaient pas qu'on leur cite la chaîne de transmission qui avait dit ce qu'on dit. Dans un premier temps, les savants disaient, ben voilà, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire ceci. Et puis, avec l'expansion, il va y avoir une dispersion et surtout l'impossibilité de confirmer les uns et les autres, de se confirmer les uns et les autres. Avec cette dispersion-là, eh bien, il va y avoir l'affaiblissement des éléments de la mémoire, l'affaiblissement de la connaissance, et puis, bien entendu, les nouvelles pratiques qui vont se mêler à ce que l'on entendait de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et dans ces nouvelles pratiques amener justement des distorsions qui vont être plus ou moins acceptées selon la fidélité ou la proximité du savant ou des savants avec justement la connaissance initiale. Et puis le troisième élément, celui qui est véritablement, qui va vraiment porter beaucoup de problèmes, c'est la fabrication de hadiths pour des fins politiques. À partir du moment où on avait besoin de quelque chose qui venait accréditer une thèse ou accréditer un positionnement politique, eh bien, on supposait que immédiatement on pouvait inventer, et certains le faisaient sans vergogne et sans beaucoup de crainte de ce point de vue-là, inventer des hadiths. Et il a fallu, à partir d'un certain moment, en particulier à partir du deuxième siècle après la mort du prophète, commencer un travail d'élaboration. Mais ce travail, il se fait dans un mélange. On n'a pas encore une science spécifique concernant le hadith, si ce n'est au IVe siècle. Dans un premier temps, on a un mélange qui mêle le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence dont on avait besoin, avec également des éléments qui sont de plus en plus pensés des fondements de la jurisprudence, on saurait le faire, qu'on a tout ceci un peu mêlé, que ce soit par exemple dans les travaux de Shafi'i, Al-Risala ou Al-Umm également, qui sont des ouvrages de référence, mais tout ceci, bien entendu, est en train de s'élaborer et s'élaborer avec pas mal de précision jusqu'au moment où effectivement vont apparaître les travaux dans un premier temps de Bukhari ou Muslim, qui sont les deux ouvrages de référence dont nous dirons quelque chose, c'est-à-dire l'élaboration à partir du 9e siècle justement de ces textes qui vont réunir les dimensions authentiques, les hadiths authentiques, ceux qui justement étaient l'objet de toute l'étude du hadith. Avec les siècles, de ce point de vue-là, on va devenir de plus en plus exigeant, notamment puisque, par exemple, le Bukhari, c'est le 9e siècle, 810 à 870, le Muslim, c'est 817 à 875. Donc, vous voyez, 9e siècle, avec le temps va devenir de plus en plus précis. Eux ont des conditions non pas plus précis, parce que tous les hadiths qui sont rapportés là sont considérés à l'intérieur de la communauté musulmane comme étant véridique et authentique, mais on va également par la suite élaborer au fil du temps une science assez pointue de ce qui s'appelle la chaîne de transmission, sur laquelle nous dirons un mot, et vous avez beaucoup d'ouvrages qui sont de référence à partir du 4e siècle, que ce soit Ibn Abdallah al-Hakim al-Nasaburi, qui est connu sous le nom de Nasaburi, qui date du 5e siècle après l'Égir. Vous avez également un ouvrage important de Al-Asbahani, qui est un texte aussi important au 5e siècle, sur la science du hadith, Al-Mustakhraj ala ulum al-hadith. Vous avez d'autres ouvrages, en particulier d'Al-Bardadi, qui est un ouvrage également important, lui qui date du 5e siècle après l'Égir. Donc vous avez, de ce point de vue-là, un certain nombre d'ouvrages qui, tout au long des siècles, vont devenir des ouvrages de référence, que ce soit ensuite les textes de Nawawi également, qui est connu pour les hadiths qu'il a pu classé, etc. Donc, sans rentrer dans les détails de l'ensemble de ces textes importants, qui sont des textes de référence pour les sciences du hadith et qui ont traversé les siècles, on s'aperçoit que avec le temps, il a fallu effectivement préciser les choses, et on s'est rendu compte que il fallait être très pointu et dans la chaîne de transmission et dans ce qui concernait le texte. Alors, j'ai utilisé un certain nombre de termes depuis le début, et nous allons nous faire un petit arrêt ici sur cette terminologie pour en comprendre effectivement le sens. Alors, c'est ce qu'on appelle mustalah al-hadith, c'est-à-dire les termes spécifiques de spécialisation pour ce qui concerne le hadith. Alors, il y a beaucoup de discussions sur des termes qui sont employés chez les uns et chez les autres, et qui, de ce point de vue-là, mettent en évidence des distinctions. Elles sont pas très importantes. Pour nous, nous garderons les choses très simplement, en gardant une ligne qui est celle que tous, peut-être entendu par tous, même si à l'intérieur on s'apercevrait, si on allait très profondément dans cette science, que tout le monde n'est pas d'accord sur l'emploi des mots, car certains diversifient les mots. Alors, simplement une chose, quand on parle de SANAD, c'est la chaîne de transmission. La chaîne de transmission et SNAD également, qui parfois veut dire la même chose. En général donc, on a par rapport au hadith ou aux sciences de hadith, quand on parle de hadith, on a, si vous voulez, deux parties. On a d'un côté tout ce qui concerne la chaîne de transmission, qui est également un des éléments très très importants qui va permettre l'authentification du hadith, et on a tout ce qui concerne le texte lui-même. Alors on a bien entendu dans cette référence un certain nombre de mots qui sont importants, comme le sanad, qui est la chaîne de transmission, l'isnad pour certains veut dire exactement la même chose justement, c'est-à-dire le fait de l'ensemble de la chaîne. Et puis on a ensuite ce qui concerne le texte lui-même, qu'on appelle de plusieurs termes. Alors on a pour le texte el matn, qui est le texte lui-même, mais on a également qui peut être utilisé el khabar, qui peut être justement le texte, et pour certains, c'est le texte plus la chaîne, donc c'est-à-dire le texte, c'est-à-dire el matn plus le sanad, et puis on a l'athar, c'est-à-dire également ici, pour certains, cela veut dire la même chose que le texte. Donc, en fait, cette science recouvre deux domaines qui sont reconnus. On a tout ce qui concerne le hadith, en deux parties. Le hadith, ça peut être al-khabar, ça peut être al-athar, mais ça peut être aussi ça peut être l'un ou l'autre des termes que l'on emploie. Et puis, quand on en parle, on fait référence à deux dimensions. Toute la chaîne de transmission qui est al-sanad ou al-isnad, donc tout ce qui concerne l'honnêteté ou la perfection de ceux qui rapportent la chaîne, et ensuite donc leur mémoire, leur capacité à rendre les choses dans le sens exact. Et puis vous avez également ensuite tout ce qui concerne le texte lui-même, qu'on appelle l'énoncé de l'information traditionnelle, le matn, qui est justement les termes de l'information tels que ceux-ci apparaissent. D'accord ? Donc dans cette perspective-là, on a ces deux dimensions-là, et certains même utilisent pour el matn el khabar, quand certains utilisent el khabar pour l'ensemble de la chaîne et et du texte lui-même, c'est-à-dire du matn. Donc vous voyez que là on a des terminologies qui ne se recouvrent pas toujours en fonction des savants, mais en s'en tenant au sanad ou al isnad pour la chaîne de transmission, el matn pour le texte, ou al hadith pour les deux tout à la fois, donc un hadith c'est une chaîne de transmission, un sanad plus un matn, je crois que là on a quelque chose qui recouvre effectivement les opinions générales des savants. On a effectivement, pour ce qui concerne le connaisseur de hadith et le muhaddith, c'est-à-dire celui qui connaît le hadith et dont il est la science, vous avez le hafiz, c'est-à-dire l'érudit, qui lui également peut de ce point de vue-là avoir le même sens que le muhaddith, mais parfois d'être d'un degré plus haut, comme el-hakim, c'est effectivement celui qui connaît plusieurs sciences, dont celle du hadith, et qui a de ce point de vue-là une opinion sur l'ensemble de ces sciences-là, en particulier de la science du hadith telle que nous l'étudions. Donc, dans cette terminologie-là, on a en général ces connaissances-là. Et on va voir que toutes les sciences islamiques vont s'articuler autour de ces deux domaines, tout à la fois la science qui va préciser les éléments qui sont liés à la fiabilité d'une chaîne de transmission, et les sciences qui vont et toutes les recherches qui vont tourner autour de la fiabilité du texte, en fonction par exemple à sa fidélité avec le Coran, en fonction de sa fidélité avec d'autres textes. Et puis on va, de ce point de vue là, élaborer des degrés d'authenticité. Alors voilà, dans ces dimensions, ce qu'il reste. Il est évident que ce sur quoi on va d'abord travailler et ce qui va être le plus important dans cette science, ce sont les degrés d'authenticité qui sont liés au sanad, c'est-à-dire qui sont liés à la chaîne de transmission. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement au travers de cette chaîne de transmission qui, si elle est fiable, va confirmer finalement un texte. Alors, bien entendu, parfois on a des chaînes de transmission avec un texte qui est sujet à discussion parce qu'il infirmerait, par exemple, un texte du Coran, cela peut arriver, mais c'est vrai que ce qui d'abord et immédiatement est nécessaire, c'est de savoir si le texte qui est rapporté s'appuie sur une chaîne de transmission qui est une chaîne de transmission reconnue, authentique, reconnue comme vérifiée, vérifiable et accepté. À partir du moment où ce travail se fait, alors se vient le travail sur le texte lui-même pour savoir dans quelle mesure on peut en tirer effectivement des informations. Alors, maintenant, par rapport à tout ce travail-là, il y a ce qu'on appelle les degrés d'authenticité. Alors, ces degrés d'authenticité, il est important de les connaître parce que elles mettent en évidence justement le rapport que l'on doit avoir avec un certain nombre de hadiths, et surtout elle catégorise et clarifie la place finalement de chacun des hadiths dont nous parlons par rapport à l'ensemble des prescriptions islamiques. Alors, le premier type de hadith qui est connu, c'est le hadith notoire, celui qu'on appelle El Mutawatir. El Mutawatir, c'est de cette perception-là le hadith qui vient immédiatement en termes d'authenticité après le prophète alayhi salam. Pourquoi ? Parce que d'abord, la chaîne de transmission est continue, et surtout, il y a une condition. Alors, parfois, on diffère chez les savants sur le nombre, mais ce sur quoi beaucoup sont d'accord, c'est de dire, par exemple, qu'à chaque étage de la chaîne de transmission, on trouve 10 transmetteurs au moins. Ça veut dire qu'en fait, c'est un hadith qui est tellement rapporté, qui est apporté à partir des compagnons, et ensuite à chacun des étages, chaque fois un certain nombre de personnes, dont le consensus est de dire une 10, fait en sorte que ce hadith, de ce point de vue-là, est un hadith qui est notoire, reconnu, et qui est tellement confirmé par ceux qui l'ont entendu en même temps et à plusieurs étages de la transmission, qu'il est de nature à être d'une authenticité fondamentalement reconnue. Et de ce point de vue-là, vient immédiatement en termes de reconnaissance quant à son autorité après le Coran el-Karim. On distingue par rapport à ce hadith mutawatir deux types en l'occurrence. Justement, eu égard à leur grande transmission, on a ce qu'on appelle el mutawatir lafzi, c'est-à-dire c'est un hadith qui a été transmis tout à la fois dans son sens mais avec les mêmes mots, c'est-à-dire véritablement celui-ci. Ce sont les mêmes mots qui reviennent dans les transmissions, les mêmes mots que l'ensemble de ce qu'on a par ailleurs dans les autres transmissions avec le même sens. Et puis on a el mutawatir el ma'nawi, c'est-à-dire le mutawatir qui n'a pas les mêmes mots mais qui est confirmé au niveau de sa signification. Ça concerne par exemple le hadith qui rapporte que le prophète alayhi salam levait les mains pendant les invocations. Et là, on a justement ceci qui est rapporté dans des circonstances différentes et qui confirme justement la signification, mais qui ne rapporte pas les mêmes termes. Quant à l'autre, celui qui est el mutawat el lafzi, on a le hadith du prophète qui sur la Aïssatou Salam, quand il dit « Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il s'attende à siéger, à trouver sa place en enfer », ça c'est un hadith qui a été rapporté par plus de 60 plus de 70 compagnons. Donc on a, de ce point de vue-là, un certain nombre de hadiths, par exemple « Mas al-Khufayn » qui concerne justement le fait de d'effleurer les chaussons, et bien c'est aussi un hadith mutawatir. On a, de ce point de vue-là, des hadiths qui sont reconnus comme tels et à rapport auxquels les savants sont d'accord quant à l'authenticité. Ça, c'est la première des grandes catégories qui vient directement et tout de suite après le Coran et le Karim. Vous avez ensuite quand justement on a moins de compagnons, moins de personnes sur chacun des étages, on va avoir trois catégories de hadith qui toutes entrent dans une autre catégorie, el mutawatir, et ensuite on a el khabar el ahad. Donc, dans cette dimension-là, c'est le hadith qui est rapporté par un seul, qui a une unicité, comme ceci, on pourrait le traduire par l'information, qui est une information singulière, au sens qu'elle n'a pas la même dimension de notoire. Et alors, par rapport à cela, on a trois catégories dans ce type de hadith. On a ce qui est le hadith mashhur, c'est-à-dire que dans la chaîne de transmission, alors là également, on va avoir une comptabilité des conditions qui sont différentes parfois quant au nombre par rapport aux savants, mais quand par exemple à chacun des étages on a au minimum trois transmetteurs, et bien là on dira que c'est un hadith mashhur, c'est-à-dire qui est répandu, connu. Et puis vous avez également, quand alors on passe à un degré en dessous, selon certains savants, on mettra en évidence, si on a deux personnes par chaîne, on dira aziz, c'est-à-dire un hadith puissant. Et puis quand on a un seul transmetteur, c'est-à-dire encore d'un degré en dessous, on dira gharib, c'est-à-dire étranger, original, quand on a un transmetteur. Donc on a, de ce point de vue-là, un certain type de catégorisation. Alors, d'un côté, le mutawatir, avec cette espèce de forte présence de l'ensemble de ceux qui ont rapporté, et qui, dans chacune de ces étages, a un minimum de 10. Et alors là, on dira mutawatir, lafzi ou ma'nawi. Et puis, à côté de ceci, le khabar, c'est-à-dire cette tradition singulière, unique, avec ces trois catégories. Voilà ce qu'on a, si vous voulez, comme paysage général. Et à l'intérieur de ceci, on va alors avoir une classification. Bien entendu, on s'en tient à l'ensemble des éléments qui vont vérifier les degrés d'authenticité. Alors, dans ces hadiths ahad, on va avoir une classification des degrés d'authenticité à partir du moment où un certain nombre de conditions vont apparaître et que nous allons expliciter de suite. Dans cette classification, donc, on a la classification des conditions qui vont permettre, par exemple, dans la première catégorie, qui est celle du sahih, c'est-à-dire celui qui est valide, celui qui est reconnu de validité, c'est justement, en tout cas, quatre conditions qui vont permettre d'atteindre ce degré d'authenticité. Alors la première, et pratiquement les trois premières, concernent justement la chaîne de transmission, l'isnad, et puis le dernier correspond plutôt à ce qui est el-matn, c'est-à-dire le texte. La première condition, c'est qu'il y ait dans la chaîne de liaison une continuité des transmetteur, c'est-à-dire qu'il y ait, à partir du dernier jusqu'à remonter au compagnon du prophète, al-Salam, qu'il l'a entendu du prophète, un lien, et qu'il n'y ait pas de coupure, comme par exemple le fait qu'un tel n'ait pas pu rencontrer un tel parce qu'il n'était pas de la même époque ou pas du même lieu, donc il est impossible qu'ils se soient rencontrés. Donc là, on aurait une coupure, on en dira un mot tout à l'heure, mais donc une liaison et une continuité. La deuxième des choses, c'est l'honorabilité des transmetteurs. C'est-à-dire qu'on a également ici toute une science que nous n'aurons pas le temps d'aborder ici, mais qui est une science et un travail qui est de relever l'honorabilité, l'adl, au sens de la précision et de la justice des transmetteurs, en sachant si un tel et un tel sont effectivement de confiance, c'est-à-dire au sens où on peut reconnaître le fait que quand ils rapportent avec vérité. On a effectivement ensuite ce qui est la sûreté des transmetteurs, donc d'abord la reconnaissance de leur honorabilité, puis ensuite la sûreté, donc c'est plutôt ce que nous venons de dire correspondrait davantage au troisième plan, c'est Bobet, c'est-à-dire véritablement celui Bobt qui a une précision, l'habitude d'un rapport et la connaissance dans son entourage d'être quelqu'un de grande précision, de sûreté dans sa mémoire également. Et puis le quatrième élément, c'est justement l'absence de illa, c'est-à-dire de défaut dans le texte tel qu'on peut en trouver. Et donc de ce point de vue-là, il est possible justement de ensuite, par rapport au texte, faire attention à ce que dans le texte lui-même, il n'y ait pas un manquement par rapport à la transmission elle-même. Donc, si l'on répète, la liaison et la continuité des transmetteurs, l'honorabilité de ceux-ci, leur sûreté dans leur mémoire également, et puis l'absence de illa, c'est-à-dire l'absence de défaut dans l'ensemble de ce qui est transmis ici, nous amène à considérer que quand ces quatre conditions sont réunies, eh bien, on atteint par rapport à l'authenticité, le degré d'authenticité du hadith, celui de sahih. Bien entendu, pour chacun ensuite, il va y avoir pour al-hadith, c'est-à-dire pour les savants ici, un travail très très pointu de précision, de reconnaissance des gens, de savoir qu'un tel, lui, est plutôt thiqa, c'est-à-dire un homme de confiance, tel autre ne l'est pas, et donc on va, de ce point de vue-là, dès qu'il n'y a pas de défaut, reconnaître effectivement une reconnaissance, et puis, de ce point de vue-là, on peut reconnaître la réalité, la validité du hadith. Et bien, ce hadith-là, de ce point de vue-là, il est bien entendu bon pour le fait d'édicter une loi, hukm shar'i, c'est-à-dire on s'appuie sur ces hadiths au premier chef. On verra que c'est également permis parfois de s'en tenir à d'autres niveaux, mais c'est avec ces sahih-là, où il y a des degrés en plus dans le sahih, on verra comment tout à l'heure, eh bien, on reconnaît qu'avec ces hadiths, on peut s'appuyer sur un avis juridique et puis formuler un avis juridique. Donc on a ici deux textes finalement dont on peut dire qu'ils ont s'en sont tenus à ce qu'ils considéraient comme sahihan, c'est-à-dire les deux textes de sahih de al-Bukhari wa Muslim. Mais al-Bukhari wa Muslim n'ont pas réuni tous les hadiths sahih, ceux qu'ils ont réunis étaient avec leur conditionnalité considérée comme telle. Mais eux-mêmes l'ont dit, et l'un et l'autre, qu'ils n'avaient pas réuni tous, qu'ils s'en étaient tenus à ce qui était le plus reconnu. Et il y a, bien sûr, d'autres textes de Sahih qui sont reconnus. On trouvera des hadiths Sahih dans Al-Mustadrak de Al-Hakim. On trouvera également des Sahih dans le Sahih d'Ibn Khuzayma ou Sahih d'Ibn Hibban, c'est-à-dire également des textes qui sont eux reconnus comme tels et qui dépassent le seul cadre de Al-Bukhari ou Muslim, et d'autres bien entendu textes qui sont reconnus comme dans les Sunan de Dharqutni ou Al-Bayhaqi, c'est d'autres textes de référence où on trouve des hadiths considérés comme tels. Donc Al-Bukhari ou Muslim condense un certain nombre et sont tenus un certain nombre de hadiths au sens du point de vue non nombre de façon restrictive, mais si eux sont considérés comme sahih, cela ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas par ailleurs, et il y a d'autres ouvrages de ce point de vue-là qui font cas de hadiths de ce type-là. Donc voilà pour ce premier élément concernant les le Sahih. On a maintenant un autre niveau de d'authenticité, et ce sera de ce point de vue-là El Hassan, c'est-à-dire le bon, celui qui est accepté et qui a une fiabilité qui est amoindrie. Pourquoi ? Parce que au niveau des conditions, on va trouver que l'une d'entre elles ne va pas se trouver respecté. Il peut, par exemple, y avoir une honorabilité d'un des transmetteurs qui soit amoindrie, ou la sûreté d'un des transmetteurs qui soit amoindrie, ou on trouve un petit défaut. Alors, tout dépend ensuite de l'analyse que l'on fera de l'un ou l'autre de ces défauts, et qui vont, de ce point de vue-là, mettre en évidence le fait de la gradation qu'on va pouvoir dire s'il est effectivement, on va même chez Tirmidhi, par exemple, qui est l'un des, de ceux qui a fait une compilation de hadiths, avoir des Sahih Hassan, ou des terminologies qui permettent d'augmenter le degré de d'authenticité par rapport justement aux différentes aux différents manquements ou aux différentes défaillances qu'on va trouver soit dans l'isnad, soit dans le matn lui-même. Et alors à partir de là, on a effectivement des formulations qui sont des formulations qu'il faut comprendre. Quand par exemple on a sahih li zatihi, c'est-à-dire un hadith est valide pour lui-même, c'est-à-dire que lui-même a toutes les conditions d'authenticité. Mais il peut se trouver également qu'on ait un hadith sahih li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il est considéré comme valide par d'autres que lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un hadith qui est hassan, à qui il y a des défaillances, mais comme il y a d'autres hadiths qui sont qui viennent le confirmer, on le considère authentique justement par la preuve des autres. Et on a ceci aux trois niveaux. On va trouver aussi hassan li dhatihi, c'est-à-dire hassan par lui-même, c'est-à-dire qu'il a les conditionnalités à hassan, ou hassan li ghayrihi, c'est-à-dire que c'est un hadith qui est considéré d'un plus bas degré, c'est-à-dire faible, tarif, mais qui justement en étant par lui-même dans sa conditionnalité faible est quand même confirmé par d'autres. Ce sont les autres qui le font monter à l'échelon supérieur. Donc on a l'idatihi ou l'irayrihi. L'idatihi, c'est par lui-même, il contient l'ensemble des conditions, et pour le sahih et pour le hassan, c'est la même chose, mais il se peut que le hassan devienne sahih par d'autres, c'est-à-dire qu'il devient sahih li ghayrihi, et que le faible devienne hassan li ghayrihi, parce que d'autres traditions viennent le confirmer. On a ainsi des dégradations: sahih li dhatihi, sahih li ghayrihi, hassan li dhatihi, hassan li ghayrihi, et da'if, c'est-à-dire en même temps avec des échelons intermédiaires qui nous permettent de comprendre justement différents niveaux. Alors vous voyez déjà que par rapport à cela, les éléments commencent à devenir, ou les catégorisations commencent à devenir de plus en plus compliquées. Et dans le hadith sahih, le hadith hassan, on considère que là également, à un degré moindre, mais de façon quand même convaincante, on peut tirer des ahkam, c'est-à-dire des prescriptions qui sont auxquelles le musulman doit se tenir à partir du moment où il reconnaît la réalité de ces dimensions-là, la réalité de cette gradation-là et de cette reconnaissance pour Shara, c'est-à-dire pour l'application des éléments de la législation et de la jurisprudence islamique. Et puis ensuite, on va avoir au plus bas de l'échelle ce qui s'appelle justement Da'if. Et Da'if, c'est le hadith qui est qui est faible et qui justement peut avoir plusieurs causes d'irrecevabilité, le mardoud, c'est-à-dire que l'on ne retient pas, soit justement parce que la chaîne de transmission pose un problème quant à sa Il y a à un moment donné une coupure qui peut être importante, soit vers immédiatement parce qu'il n'y a pas de compagnon qui a rapporté ceci, soit à un moment ou un autre de la chaîne, soit en plus on s'aperçoit qu'il y a à l'intérieur de la chaîne quelqu'un dont on a reconnu la non-honorabilité parce qu'il a l'habitude de rapporter des hadiths qui sont des hadiths mensongers, ou encore le fait qu'il n'y ait pas de confiance en tel ou tel, ou alors par exemple parce qu'il est impossible qu'un tel ait rencontré un tel parce qu'ils étaient à des époques différentes ou en des lieux complètement différents qu'ils ne se sont pas rencontrés, et bien là le hadith passe à un degré inférieur, et aussi parfois par le texte lui-même qui est en clair et manifeste contradiction avec ce que nous avons dans d'autres hadiths et dans le Coran, et bien de ce point de vue-là on tombe ici dans le hadith qui est rejeté, et pour différentes raisons. Alors ici, il est évident que pour l'ensemble de tous ces hadiths et de cette catégorie, on a énormément de noms qui vont spécifier à quel moment, par exemple, on a tel nom qui manque ou telle chaîne de transmission, tel niveau au niveau de la chaîne de transmission qui manque. Et ben, on va avoir par exemple des spécifications qui sont différentes, el mu'allaq, el mursal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, quelque chose manque par le haut, et donc là on reconnaît que quand il manque par le haut, et ben on a justement ici une chaîne de transmission et qui demande un travail de précision, un travail d'explication pointue pour chacun des niveaux, afin que nous sachions considérer la nature de la transmission elle-même et son niveau d'authenticité. Ainsi donc, à partir de ce que nous venons de mettre en évidence, et l'on voit que les choses ne sont pas simples, parce qu'en plus du fait de ces différents niveaux d'authenticité, il y a le travail spécifique de l'un ou l'autre des savants qui, parfois, avec des conditions qui sont un peu différentes de celles d'un autre savant, peut classifier, catégoriser les choses un peu différemment. Donc les choses ne sont pas simples de ce point de vue-là, et si nous voulons nous en tenir d'abord à une explication synthétique et claire, nous dirons et nous devrons nous rendre compte de ce point de vue-là qu'il y a ces trois niveaux reconnus, as-sahih, avec ces quatre conditions, la liaison et la continuité, l'honorabilité des transmetteurs, la sûreté et la précision, dhabt, et puis al-adl, que nous avions dit tout à l'heure, ensuite l'absence de illa, l'absence de défaut dans la transmission et dans le matn. Donc dans cet élément-là, quatre conditions fondamentales. Quand ces quatre conditions ne sont pas de ce point de vue-là respectées telles qu'elles devraient l'être et telles que nous les avons mis en évidence, nous passerons à un degré qui est inférieur, el-hassan, c'est-à-dire qui est bon et accepté, avec une fiabilité peut-être moindre pour les transmetteurs ou pour dans leur sûreté, dans leur honorabilité. Et puis, dans ceci également, à partir du moment où l'on a un manque du point de vue de ces conditions, cela rend le hadith irrecevable, ou par sa chaîne, ou par les transmetteurs bien entendu spécifiques, ou en même temps par le texte lui-même, et l'on considère que le hadith est da'if, mardoud, c'est-à-dire rejeté de ce point de vue-là, et on peut avoir sart min al-isnad, c'est-à-dire dans l'isnad on a un manque de ce point de vue-là qui fait que on ne peut pas considérer que ce hadith est sahih. Dans ces trois catégories-là, on a vu qu'il y avait sahih li zatihi, c'est-à-dire le sahih pour lui-même avec ses conditions, ou sahih li ghayrihi, c'est-à-dire le hassan qui par d'autres voies et d'autres transmissions passe au degré un peu supérieur sans atteindre le degré de sahih li zatihi. Et puis on a le hassan li zatihi, c'est-à-dire avec les conditions qui peuvent lui permettre d'être bon et accepté, ou Al-Hassan al-Ghayrihi qui passe du da'if mais qui est confirmé par d'autres voies et qui passe également de ce point de vue-là au niveau un peu supérieur sans atteindre le niveau du Hassan al-Dhatihi. Donc on a ces différents niveaux qui permettent d'avoir une idée un tout petit peu synthétique à partir des conditions que nous avons mis en évidence d'une espèce de catégorisation et de typologie des différents hadiths. Maintenant, pour ce qui concerne les valeurs exécutoires, quand on part du principe justement qu'on peut se trouver en face de hadiths qui pour les uns vont avoir une valeur exécutoire et pour les autres ne vont pas l'avoir. On part du principe, en l'occurrence, que pour le da'if en général, la valeur exécutoire pour ce qui concerne les prescriptions juridiques ou tout ce qui concerne la jurisprudence ne sont pas reconnues à partir du da'if. Bien entendu, le da'if, par d'autres voies, peut devenir Hassan al-Ghayrihi et de ce point de vue-là, pourrait, en certaines circonstances, et c'est le cas, être utilisé pour des voies jurisprudentielles, mais en l'occurrence, en général, pour lui-même, il n'est pas reconnu. On en tire uniquement une valeur d'enseignement moral, d'enseignement général. On s'en tient simplement à cela. Pour ce qui concerne, par contre, Al-Hassan, le bon, et Al-Sahih, qui est le valide, eh bien, on les utilise à différents niveaux et selon certaines circonstances pour ce qui concerne la dimension de ce qui est de la jurisprudence et des affaires juridiques. Et puis, à l'intérieur même de ces hadiths, on va s'apercevoir que les choses se compliquent parce que parfois, on se trouve en face de textes qui sont d'un même degré d'authenticité, c'est-à-dire qui sont vrais ou qui sont hassan, et puis pourtant, il peut y avoir des contradictions dans les termes. Alors, il y a trois choses. Il y a la première chose, celui qu'on dit el-muhkam, c'est-à-dire qu'il est clair et sans opposition par ailleurs. On le prend pour tel et il ne pose pas de problème par le sens, il confirme, il est appuyé par d'autres, donc de ce point de vue-là, pas de problème de compréhension. Mais vous avez également Mukhtalaf al-Hadith, c'est-à-dire des hadiths qui, de ce point de vue-là, sont d'un degré d'authenticité, mais qui, justement, mettent en évidence des divergences que vis-à-vis des uns des autres. Donc, ce problème-là, pour un même degré d'authenticité, on va se trouver avec deux hadiths qui ont des degrés de des compréhensions qui sont différentes, ou en tout cas des sens qui sont apparemment différents. Alors là, il y a tout à fait un travail que font les savants, qui est justement d'essayer de voir où se trouve le fait de leur conciliation possible, leur de bonne compréhension. Alors ici, il y a tout un travail de commentaires, de compréhension, pour voir s'il y a une conciliation possible, si on arrive de ce point de vue-là, au-delà de la contradiction apparente, à faire le lien. Et c'est bien entendu ce qu'ont fait beaucoup de savants. On en a, Ibn Hajar par exemple, a fait beaucoup ceci dans tout son commentaire de Al-Bukhari. On voit à des moments donnés aussi qu'il y a tout un travail de explication. On a également, dans des dimensions de contradiction apparente pour des textes de valeur ou d'authenticité similaire, eh bien, on a, il ne faut pas l'oublier, une terminologie qu'on retrouve qui est celle du Coran, qui est celle d'Al-Nasir ou Al-Mansour, qui veut dire qu'en fait il y a abrogeant et l'abrogé, et dont il faut savoir par rapport au texte lequel a précédé lequel et comment se situe chronologiquement le rapport des deux, car on trouve effectivement des hadiths, et le prophète A.S.S.L.A.M. l'avait mentionné pour ce qui concerne la visite des tombes, eh bien on a des hadiths qui viennent infirmer d'autres qui les ont précédés, et de ce point de vue-là, mettre en évidence le fait que il faut aussi faire un travail de chronologie et d'histoire dans un certain nombre de cas par rapport au moment où le prophète A.S.S.L.A.M. a pu dire ceci, si c'était à la Mecque, si c'était à Médine, à quel moment à Médine, où l'a-t-il dit, et a-t-il dit quelque chose qui était en contradiction. Donc on s'aperçoit que finalement c'est une science avec de multiples entrées, parce qu'il y a tout à la fois, bien entendu, la compréhension de toutes ces chaînes de transmission avec un travail très très pointu, Ensuite, la reconnaissance pour les chaînes de transmission du nombre des personnes qui va permettre, par exemple, de dire el mutawater et la reconnaissance du mutawater, mais également la reconnaissance de l'khabar el ahad et donc la distinction avec en plus le manchour, l'aziz, l'ghari, puis ensuite à l'intérieur de ceux-ci trois niveaux d'authenticité, à l'intérieur de ces trois niveaux d'authenticité s'intercalent deux autres niveaux comme nous l'avons mis en évidence, et puis en même temps on va s'apercevoir que pour ce qui concerne les valeurs exécutoires, il y a encore à voir s'il y a une cohérence entre les différents ahadiths, s'il n'y a pas d'abrogeant et d'abrogé. Donc on a tout un travail qui est un travail extrêmement pointu et qui participe donc de ces sciences du Coran. Et c'est dire immédiatement combien quelqu'un qui se lancerait dans ces sciences, ou en tout cas quelqu'un qui aborderait les hadiths, doit être extrêmement méticuleux dans le seul fait de dire voilà, tel hadith dit tel enseignement pris comme ceci, sans comprendre son degré d'authenticité, comment les savants s'y réfèrent, comment il est interprété en fonction également des différentes compatibilité ou non, et de l'abrogation ou non, et en même temps, en plus de cela, de sa fiabilité et de son degré d'authenticité qui apparaît en évidence et qui apparaît d'abord. Donc, dans cette dimension-là, ce que nous avons mis en évidence et qui paraît là comme étant un élément important dont il faut se souvenir, c'est cette complexité. Il y a entre 30 et 50 termes spécifiques pour les différents types de hadiths en même temps dans toutes ces trois catégories telles que nous les avons mis en évidence, qui vont mettre en évidence à quel moment Allah, quand il manque justement quelqu'un, ou le Mursal, quand il manque quelqu'un juste après le compagnon, quand il manque ici, alors on a quelque chose qui manque, et ce hadith est considéré comme fiable dans Usul al-Fiqh parce qu'il est considéré justement dans la lignée de son qu'on peut reconnaître, ou le Mu'allaq qui est aussi un autre type, et là on a énormément de noms dans ce qui concerne Sakt min al-Isnad, c'est-à-dire quand il manque dans la chaîne de transmission à un niveau donné, à partir du moment où il est repéré, où il est mentionné, où il est catégorisé, un certain nombre de termes. On a également un certain nombre de noms, de types de hadiths, dont il faut également se souvenir au niveau des termes qui sont employés. On parle également du hadith al-Qudsi. C'est un hadith qui est un hadith qui a une valeur particulière. Pourquoi ? Parce que le sens lui est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, par Dieu, mais les mots sont les siens. C'est-à-dire que ce sont ses mots, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle avec le prophète alayhi salam, qui dit cette inspiration avec ses mots à lui, et donc là également c'est un sens très très particulier. On a des recueils de hadith qudsi, c'est-à-dire des hadiths qui sont de ce point de vue-là des hadiths sur lesquels on peut se référer parfois, et là on a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes et qui sont rapportées également dans les recueils connus de hadith. On a ce qu'on appelle le hadith al-marfou', c'est-à-dire celui qui se rapporte, qui est attribué au prophète alayhi salam en parole, en mots, et justement c'est ce dont on parle le plus souvent, le marfou' ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On a le hadith al-manquf, c'est-à-dire celui qui se rapporte à un compagnon, et le hadith al-maqtour, c'est-à-dire celui qui se rapporte à un suivant, tabi', c'est-à-dire celui qui suit les compagnons. On a là un certain nombre de termes qui se rapportent à un certain niveau justement de retour à la source, que ce soit tabi', que ce soit le compagnon, que ce soit le prophète, ou que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-qudsi, al-maqtour, marfou, al-mawquf, wal-maqtou. Donc ces quatre niveaux-là, l'un, le premier pour Allah subhanahu wa ta'ala, le second pour le prophète alayhi salam, le troisième pour le compagnon, et le quatrième, l'ittaba', c'est-à-dire pour celui qui suit le compagnon. Donc on a ici également un ensemble de catégorisations. Alors, autant on a mis en évidence le fait qu'il y avait une terminologie spécifique entre les 30 et 50 termes, eh bien, il y a également, on va trouver également ici des termes qui concernent les qualités des transmetteurs. Quand on parle de thiqa, c'est-à-dire d'homme de confiance, il a l'adala, il a d'opt, il a justement la honorabilité, la justice, la précision. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a aussi pour ces transmetteurs des termes thiqa même, on utilise parfois on redouble justement pour pouvoir dire le fait qu'il est double, pour préciser également et pour rajouter à la confiance et à la précision. Donc on a véritablement ici toute une terminologie qui va nous permettre de savoir, et c'est ce que font les étudiants dans Ulum al-Hadith, de connaître un tel, est-ce que oui ou non on peut le considérer comme étant de confiance et à quel niveau. Donc on voit ici encore une fois que c'est quelque chose qui demande une précision particulière dans le travail spécifique. Il y a beaucoup de textes de référence, nous ne les avons pas tous cités, nous avons bien entendu fait référence à Al-Bukhari ou à Muslim, qui sont les deux de référence. On en a encore quatre autres auxquels on fait en général référence dans les textes de hadith. On connaît bien entendu Al-Fawa'id al-Tirmidhi, on connaît également le Musnad d'Ibn Hanbal, on connaît Sunan d'Abu Daoud ou al-Nasa'i. Ces six ouvrages sont les six ouvrages auxquels se réfère en général pour les références, mais il est bien évident qu'il en est d'autres. Nous en avons cité quelques-uns pendant ce cours qui mettent en évidence où on peut aller chercher des textes qui sont des hadiths sahih au sens où qui sont valides et auxquels on se tient, qui ne sont pas tous là-dedans, mais ces textes-là sont considérés par les sunnah al-jama'a comme les six textes de référence fondamentaux. Voilà pour l'ensemble de ces éléments-là. Nous retiendrons en termes de conclusion en tout cas trois choses. La première, c'est que à partir de la bonne compréhension de la place de la sunna, on a effectivement une terminologie spécifique. On a ce qui est le hadith et qui est en général constitué de deux choses, la ligne de transmission et en même temps le texte lui-même. Et puis on a deux grandes catégories, el mutawatir d'un côté et on a el khabar el ahad de l'autre avec el gharib, el aziz, el mashhur. Et puis en même temps, cinq finalement niveaux d'authenticité à partir du sahih li zatihi, sahih li ghayrihi, al-hasan li zatihi, al-hasan li ghayrihi, wad-da'if, avec dans l'ensemble de ces éléments-là un certain nombre de termes qui sont employés par rapport à la fiabilité ou à l'authenticité ou à la nature de la illa, du défaut ou du manque qu'il y a dans le texte. On a un certain nombre de termes qui sont employés et que dont nous avons cité certains, mais que nous ne pouvons pas être analysés pour ce premier cours. Et puis à partir de là, on a également la connaissance de à quel moment un hadith a une valeur exécutoire, s'il est muhkam, s'il participe justement d'une contradiction apparente, comme nous l'avons vu, murtalaf al-hadith, ou s'il est de ce point de vue-là nasir ou mansour. Donc on a ces différentes compréhensions-là également. Donc on a ici, et puis après, vient tout le travail que l'on fait par rapport aux transmetteurs eux-mêmes. Donc on s'aperçoit au terme de ce cours de la complexité de cette science qui finalement nous amène à la conclusion suivante. Suivre le prophète alayhi salam, c'est effectivement s'en tenir à l'enseignement et puis finalement donner bien entendu la préséance dans toute notre activité au Coran sans négliger les hadiths, mais avec les hadiths d'avoir une méticulosité, une précision, et surtout il faut être tellement pointu, tellement prudent, qu'il vaut mieux s'en tenir à quelques hadiths qui sont d'une authenticité non discutée, qui finalement clarifient tellement clairement tellement explicitement le chemin qu'on s'en tient à partir de cela à une compréhension pointue. Et on verra en plus de ceci que vient s'ajouter à cela tout ce qui est de la nature de l'extraction des règles et des jugements à partir des textes lui-même. Quand il y a par exemple le Qat'i Dalal ou Qat'i Thubut, quand il y a un haut degré de reconnaissance comme c'est le cas par rapport au Coran ou comme c'est le cas dans les hadiths les plus authentiques, on s'aperçoit de ce point de vue-là que c'est un travail très pointu qui demande à ce qu'on soit extrêmement précis. Et ça nous renvoie, et ça renvoie tous ceux qui en permanence citent les hadiths, à beaucoup plus de circonspection, à beaucoup plus de prudence, parce que c'est une science qui demande, de ce point de vue-là, à ce qu'on soit très très prudent, parce qu'on ne peut pas dire si facilement ce qui est licite ou illicite, on ne peut pas s'en tenir à l'expression d'un hadith pour pouvoir élaborer un jugement qui soit définitif, qu'il y en a de tellement nombreux de ces hadiths qui sont vrais que parfois il en est un qui en apparence interdit quelque chose mais qui est une interdiction que dans un moment donné dans une, avec précision et qui est justement spécifié à une circonstance et qui ne permet pas de l'appliquer à tous. Donc on s'aperçoit ici qu'on a véritablement tout un travail d'élaboration extrêmement pointu à faire et qui manque parfois dans les débats qu'on peut avoir et qui manquent parfois dans les compréhensions profondes que l'on devrait élaborer. Allahu a'lam, Allahu musta'an. Espérons que cette introduction aura été claire et qu'elle permet en tout cas de mettre en évidence les grandes lignes de la connaissance de ces sciences des hadiths. Et nous continuerons, Inch'Allah, avec l'autre science qui sort de ces deux, qui est Usul al-Fiqh, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.